Rapide.
Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer cette émission en remerciant tous les spectateurs, auditeurs, parce que des fois vous nous écoutez à radio, des fois vous nous écoutez et vous nous regardez à la télé. Donc tous les gens fans de Cube qui m'ont écrit au cours des derniers jours et des dernières heures pour m'offrir leurs condoléances pour le décès de ma mère. Je voulais vous remercier personnellement. J'ai reçu plein de mots, plein d'empathie, plein de compassion, plein de bienveillance. Je voudrais aussi remercier mes collègues de Cube qui, la veille de mon départ, parce que j'étais absente vendredi, se sont tous mis ensemble et m'ont écrit une carte. Vous savez, pour me dire qu'ils seraient avec moi en pensée lors du décès de ma mère par l'aide médicale à mourir, vous savez, j'ai 58 ans, ça fait 40 ans que je suis sur le marché du travail, ça fait 40 ans que je côtoie des collègues. J'ai jamais rencontré des collègues comme les gens de Cube, jamais. J'ai été particulièrement touchée par cette carte parce que tout le monde ici l'a signée, les animateurs, mais les gens aussi, les patrons, les gens, la technique, tout le monde. Et c'est très émouvant parce qu'on pense qu'on arrive au travail, puis bon, on travaille de 9h à 5h ou de 3h à 4h, et puis on pense que bon, on est juste un petit morceau dans une grande entreprise, puis on se rend compte qu'on a des collègues en or. Alors, je voudrais remercier les collègues en or que j'ai ici à Cube, et vous remercier vous qui avez pris le temps, vous tous qui avez pris le temps de m'offrir vos condoléances à l'occasion du départ de ma maman. C'est très apprécié.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Quand on est face à la mort de quelqu'un qu'on aime et qu'en plus on assiste à la mort de quelqu'un qu'on aime grâce à l'aide médicale à mourir, parce que c'est un luxe, vraiment un luxe qu'on a ici au Québec, ça nous force à une réflexion. Pourquoi dans certains coins du globe, comme par exemple, je sais qu'il y a un immense débat en France en ce moment, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'aide médicale à mourir, pas seulement pour des raisons religieuses, pour vraiment des raisons idéologiques. Alors qu'ici, au Québec, on l'a eu, ce débat-là, il y a eu un consensus social, il y a eu une acceptation sociale. Et depuis que moi, je l'ai vu de mes yeux vus, l'aide médicale à mourir, je prends un petit peu le bâton du pèlerin parce que je veux expliquer aux gens à quel point ça peut être beau, ça peut être respectueux. Et j'avais envie d'en parler de tout ça avec Dr Alain Vadeboncœur, qui est urgentologue, professeur titulaire à l'Université de Montréal, que vous connaissez bien, bien sûr. Dr Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour Sophie. D'abord, mes condoléances, moi aussi.
Merci, merci Alain, c'est gentil. Je voulais vous parler, Dr Vadeboncœur, parce que récemment, vous avez écrit un texte dans l'actualité, puis je dois vous dire que comme je savais que ma mère allait recevoir l'aide médicale à mourir, votre texte m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup touché, parce que c'est une réflexion justement sur des gens qui disent il y a trop d'aide médicale à mourir au Québec, parce que les chiffres sont clairs, hein, c'est ici qu'il y en a le plus. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire cette chronique-là, Dr Vadeboncœur?
Probablement pour les mêmes raisons que ça t'a interpellé.
Ouais.
Parce que je vois beaucoup cette idée-là qu'il y en a trop, qu'il y en a beaucoup, etc. Et ben moi, d'abord, je veux le dire, je ne suis pas un praticien de l'aide médicale à mourir, je ne la pratique pas. Ce n'est pas dans mon champ de pratique du tout. Et je n'ai jamais non plus assisté, comme toi, à cet acte-là, cet acte, cette aide-là qui est apportée aux personnes souffrantes. Donc, j'en parle parce que surtout, j'en parle depuis très longtemps, depuis le début, en fait, du débat. Oui. J'avais réfléchi initialement à ça, j'avais pris position en faveur du projet. Mais à chaque fois qu'il y a des débats, puis là, c'est surtout peut-être la France qui m'a interpellé, mm-hmm. les données aussi qui étaient sorties ici, c'est toujours un peu les mêmes questions qui se posent. Et l'argument du trop est arrivé, et moi, je me dis, oui, mais trop par rapport à quoi? Et c'est là-dessus que je réfléchis dans mon texte dans l'actualité.
Absolument. Alors, dans ce texte-là, tu prends un par un les arguments qui dit bon, y a des gens qui disent, bon, il y a des glissements et tout ça. Dans quelle mesure tu penses, Alain, puisqu'on va s'appeler Alain, t'appeler par ton prénom parce qu'on se connaît. Bon, alors, dans quelle mesure tu penses, Alain, que des gens ont des réticences, par exemple, je donne un exemple, que les gens ont des réticences religieuses, par exemple?
Ben, écoute, ça, c'est pas un mystère pour personne. Je me rappelle très bien du débat, hein. Tu as parlé d'un débat de société qui a été quand même très approfondi au Québec, hein, au milieu des années 2010, là, sur la question. Ça a duré assez longtemps. Et une des oppositions qui revenait, soit de façon explicite, donc par les corps religieux eux-mêmes qui s'exprimaient, ou par des gens qui étaient fortement associés à des mouvances religieuses, on pourrait le dire comme ça, ben, ça venait souvent comme argument. Des arguments qui, des fois, n'étaient pas présentés sous cet angle-là. Mais c'était certainement une des réserves. Puis honnêtement, je comprends ça. Je comprends qu'on peut avoir certaines convictions qui fait que d'aider quelqu'un à cheminer vers la mort, comme ça, qui est souffrant, ça peut aller contre ses convictions assez profondes. Et donc, je le comprends. Puis ça existe ici, ça existe en France. On le voit maintenant, même si c'est un pays laïque depuis très longtemps. Et donc, ça fait partie un peu du débat, hein. Puis c'est correct que ces idées-là s'expriment. On est allé au-delà de ça ici, mais ça en a fait partie ici. Moi, je me rappelle très bien.
Oui, tout à fait. Puis, un pays peut être laïque, ça n'empêche pas les citoyens qui constituent ce pays-là d'avoir, eux, leurs convictions religieuses. C'est justement ça, la beauté d'un pays laïque. Laïque, c'est qu'on respecte justement les convictions religieuses des gens. Moi, j'ai eu l'impression, Alain, que les opposants à l'aide médicale à mourir, ou ceux qui trouvent qu'il y en a trop, ne comprennent pas la quantité et la rigueur des balises qui sont mises en place pour, un, déterminer qui y a droit et pour, deux, déterminer que la personne qui y a droit le fait de sa pleine volonté, qu'elle n'a pas été influencée et que même dans les dernières secondes avant que ça se produise, qu'on réitère la volonté de la personne. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas assez martelé, ça.
Ouais, c'est possible, hein. Et tu parlais du débat. Le débat a été très, très bien mené aussi, mais ça a mené aussi à une démarche qui est très, si on veut, complète, qui tient compte de beaucoup d'éléments pour s'assurer que les gens, par exemple, font un choix éclairé, qu'il y a une confirmation de la volonté, etc., etc. Donc, c'est une démarche qui, ben, tu l'as vécu, donc tu la connais directement, qui n'a rien d'anodine et qui respecte énormément la personne vraiment concernée par tout cela, c'est-à-dire la personne malade, souffrante, donc qui prend une décision. Et je pense que cet accompagnement-là se fait très bien. On l'a vu quand on parle des chiffres que tu as mentionnés, effectivement, il y en a assez haut pourcentage là de mémoire, autour de 6 % des décès qui sont attribuables au Québec à l'aide médicale à mourir. 6,8, c'est ça. Et donc, par contre, ça, c'est dans le rapport de la commission qui est justement, non seulement le processus est solide, mais en plus, tous les cas sont vérifiés, validés. Et ce que nous dit le rapport aussi, c'est que je pense que le chiffre, c'est 99,5 % des situations d'aide médicale à mourir étaient complètement conformes à ce qui avait été prévu comme principe, parce que c'est ça l'important, et que les quelques écarts, de ce que j'en sais, c'était plutôt d'ordre administratif, c'est-à-dire oublier de remplir telle partie du formulaire ou des trucs comme ça, mais qui sont assez marginaux. Autrement dit, les principes sont solides, le débat a été fait en profondeur, et tout cela semble bien appliqué. Si ça équivaut à un choix assez élargi, c'est peut-être justement parce qu'au Québec, le débat s'est très bien fait, et que les gens, on leur offre vraiment cette possibilité-là comme une des possibilités pour terminer sa vie dans certaines circonstances. Puis si c'est le cas, ben c'est bien correct que ça se passe comme ça, là. C'est pas une question de chiffre, c'est une question de faire ce qu'on avait dit qui serait fait, et ça semble être le cas.
C'est ça. Puis de toute façon, d'emblée, dans ta chronique, tu posais la question, de toute façon, comment on détermine qu'il y en aurait trop? Ça veut dire, c'est comme quoi, qui on dit, ah ben toi, si t'en as, c'est correct, mais toi, le voisin, si t'en as, c'est pas correct? Ou à partir de quel chiffre, à partir de quel pourcentage on décide qu'il y a trop de gens qui ont accès à une démarche qui est faite de façon autonome, pleine, entière et réfléchie? C'est très étrange. C'est comme si on disait, il y a trop de gens qui se marient.
Ben écoute, moi, c'était exactement ma réflexion. Trop par rapport à quoi? Si ça se fait comme ça doit être fait, si ça correspond exactement au principe qu'on s'est donné, si ça respecte ça, puis il faut quand même mentionner, c'est sûr que 6,8 %, c'est des chiffres assez élevés, plus élevés que dans d'autres juridictions, mais il reste que la vaste majorité des décès se passent soit, voilà, ben, évidemment, de façon naturelle et dans la vaste majorité des cas, effectivement, accompagnés par les soins palliatifs. Le rapport le mentionne aussi. Et donc, ça arrive comme ça parce que peut-être que les gens, simplement, dans notre société, qui est quand même assez ouverte, hein, faut le dire, pas juste sur ce sujet-là, ben, les gens se disent, à un certain point de leur vie, c'est peut-être la bonne façon de faire. C'est les échos que j'en ai aussi, parce que j'ai quand même plusieurs collègues qui pratiquent très régulièrement l'aide médicale à mourir. Ça semble bien se passer d'après tout ce que j'en sais. Et j'ai rien vu qui allait dans une direction contraire. Alors, tant mieux si on a bien fait les choses de ce point de vue.
Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, et vraiment énormément de gens qui m'ont écrit. Et bon, il y a, il y a comme trois catégories de gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant... merci de l'avoir raconté de cette façon-là, parce que j'en ai parlé dans une chronique dans le Journal de Montréal.
Je l'ai lu,
Oui, et des gens me disaient merci de le raconter de cette façon-là, parce que moi aussi, je l'ai vécu, et en effet, ça, c'est comme ça que ça se passe, dans le respect, la sérénité, le calme, l'intimité, etc. Ça, c'est la première catégorie de courriel. La deuxième catégorie de courriel que j'ai reçue, c'est plus étrange, puis j'ai envie d'en parler avec toi, Alain. Des gens qui m'écrivent en me disant « Moi, je suis dans une grande souffrance. Et je pourrais avoir l'aide médicale à mourir, mais j'hésite à la demander. » Et des gens m'écrivent en disant « La façon dont vous le décrivez, quand vous parlez de la beauté du geste et le respect qu'il y a dans ce geste-là, je te dis, il y a des gens qui m'ont écrit en disant « Après vous avoir lu, je vais demander l'aide médicale à mourir. » Je me sens comme un peu responsable, puis en même temps, mais c'est beau, c'est un beau geste. Puis si vous souffrez, ben, et que vous y avez droit, allez-y. Mais c'est comme si, encore une fois, en 2024, malgré tout ce qu'on sait, il y a encore des gens qui ne sont pas informés de... Vraiment, le mot qui revient le plus souvent, c'est le respect. Comment ça se fait qu'on n'a pas assez parlé du respect qu'il y a dans cette démarche-là?
Ben, ça reste un sujet difficile à traiter qui soulève quand même des discussions des fois passionnées. On le voit en France, hein, c'est vraiment très, très polarisé en France. Mais donc, ça reste un sujet quand même extrêmement grave. La décision elle-même est une décision... tu sais, par exemple, moi, quelle décision je prendrais dans une situation comme ça, honnêtement, je pense que c'est un peu difficile à se projeter. Mais la beauté, la beauté de la chose, puisque tu parles de sérénité, c'est que dans le fond, il y a personne qui est poussé vers ça. Les gens sont libres de prendre une décision éclairée par rapport à ça. Et si ça correspond à ce qu'ils souhaitent, ce qui est formidable, c'est qu'on peut les accompagner là-dedans. Mais sinon, si ça correspond pas pour des raisons, peu importe ce que c'est, là, personnel, des craintes face à la famille, religieuse, peu importe, ben les gens ne le choisiront pas. Et c'est parfaitement, évidemment, correct de respecter ça pleinement. Donc le choix assez intense, j'imagine, au moment de cette décision-là, est fait par des gens qui veulent le prendre, et ceux qui ne le veulent pas, ben c'est bien correct comme ça. C'est dans ces zones-là où on est très malade, très soit très souffrant ou près de la fin de sa vie, c'est un peu normal que ça appartienne le plus. Quand tu l'as dit dans ta chronique, hein, qui sommes-nous pour juger, c'est un peu normal que ça appartienne le plus possible à la personne. Et moi, c'est la première réflexion que j'avais eue initialement. Qui sommes-nous pour nous substituer pour ce genre de décision-là, si on peut le faire.
Absolument. Il y avait une troisième catégorie, mais j'aurais pas le temps d'en parler. La troisième catégorie, c'est des gens qui disent ben moi ou mon conjoint ou un membre de ma famille, on aurait aimé avoir l'aide médicale à mourir, mais on correspondait pas aux critères. Donc, des gens qui me racontent des histoires d'horreur, de proches qui ont vécu dans la souffrance extrême jusqu'à la fin. Et ça, c'est très dommage. Et j'offre évidemment toute ma sympathie aux gens qui ont été forcés de souffrir d'une certaine façon parce qu'ils ont pas pu avoir l'aide médicale à mourir. Donc, merci beaucoup, Alain, d'avoir réfléchi à tout ça avec nous. Donc, de façon plus officielle, docteur Alain Vadeboncœur, urgentologue, professeur titulaire à l'Université de Montréal et aussi chroniqueur, excellent chroniqueur à l'actualité. Je vous invite tous à lire ça. Trop d'aide médicale à mourir, vraiment, point d'interrogation. Merci, Alain.
Merci, prends soin de toi, Sophie.
Merci.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry, tu es allé voir l'auguste Robert Charlevoix la semaine dernière.
Oui, totalement. Mais je veux commencer, évidemment, en t'offrant mes condoléances.
Merci.
Tu es déjà très courageuse d'être au micro aujourd'hui. C'est rapide quand même. Alors, prends soin de toi, puis condoléances à toute ta famille aussi.
Merci. Je leur transmettrai. T'es gentil.
Allons-y donc, oui, avec Robert Charlevoix. Écoute, c'est un petit défi. Moi et ma blonde, maintenant que les enfants sont plus grands et moins souvent à la maison, on s'est dit, si on veut se renouveler comme couple, il faut faire des affaires.
Ouais.
Puis on s'est dit, on devrait aller voir plus de spectacles de légende. Je veux pas être prophète de malheur avec Robert Charlevoix, mais un jour, il va arrêter de faire des spectacles. Puis, ce sera plus le temps de dire, « Hey, j'ai jamais vu Robert Charlevoix en spectacle. »
Ah, tu l'avais jamais vu?
Je l'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai plusieurs de ses albums ici. Je l'ai dans ma playlist. J'adore Robert Charlevoix. Puis, fait que là, on s'est dit, tiens, on commence par lui. Alors, on s'était à la Saint-Valentin, au lieu de se donner du chocolat, des affaires comme ça, on s'est acheté des billets. Et c'était vendredi que ça se passait du côté de Longueuil. Donc, on est allé voir ce monument.
OK, t'as acheté les billets à Saint-Valentin pour le 12 avril.
Exactement. Ça a été notre petit cadeau de Saint-Valentin. Donc, on s'est fait une soirée en amoureux vendredi. Puis, on est allé voir Robert Charlebois, qu'on adore tous les deux. Et il y a plein de choses qui m'ont passé par la tête ce soir-là.
Okay,
la première des affaires, c'est de dire... Puis là, les gens dans la salle, évidemment, étaient des fans. J'aurais entendu Lindbergh. J'aurais entendu « Je reviendrai à Montréal ». J'aurais entendu les talons hauts en vrai, en personne, avec le vrai chanteur, avec les gens dans la salle qui participent. Tu sais, c'est quelque chose. C'est un moment d'anthologie.
Attends,
de Robert Charlevoix.
Okay,
c'est une page de notre histoire.
On va faire la partie le fun dans Lindbergh. « Lansner, Pipan American ».
Mais
je sais plus. J'ai atterri avec Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami.
Oui.
Sophie, c'est une cochonne dans la chanson.
Dans la chanson, pas dans la chanson.
Franchement. De toute façon, j'ai jamais trompé personne avec un pot de biscuits, moi, là. Alors, donc, non, mais c'est ça, ce sont des classiques. Lindbergh, c'est absolument fabuleux. Et moi, une chose qui me frappe, et je suis sûre que c'est inclus dans la longue liste des choses dont tu veux nous parler, c'est l'énergie. Mais qu'est-ce qu'il met sur ses toasts le matin, Robert Charlebois?
Je me suis demandé la même chose.
Il a
écrit une nouvelle chanson, d'ailleurs, parce qu'il a fait des nouvelles chansons, puis il dit dans cette chanson-là qu'il va avoir 80 à la Saint-Jean. Fait que là, je suis allé voir, puis effectivement, le 25 juin, il va avoir 80, mais il a énormément d'énergie sur scène.
Incroyable.
Tu le vois de temps en temps. Il saute, puis que ça y redémange comme dans le temps. Il est très beau à voir aller, et c'est là que tu vois que c'est une bête de scène.
Incroyable.
Parce que il s'amuse avec le fait qu'il en oublie des bouts. Des fois, il fait comme... il dit à ses musiciens, en quoi ça commence déjà? Donnez-moi un beat, là. Comment commence déjà cette chanson-là? Mais ça lui dérange pas.
Ouais.
Il fait des jokes avec ça. Il parle, à un moment donné, il parlait d'un chanteur très connu à qui une compagnie de guitare avait donné une fortune pour qu'il joue avec sa guitare. Puis là, il a dit, moi aussi, Gibson, moi, je joue avec une Gibson. Gibson m'a appelé. Ils m'ont offert 45 000 $ pour que j'arrête de jouer avec ma Gibson. Donc, il y a toute une répartie, il y a beaucoup d'humour, j'ai découvert un personnage, mais ce que j'ai découvert aussi, Sophie, c'est un poète.
Ben
parce que tu sais que l'histoire nous l'a dépeint comme un rocker, l'hostie de show, tu sais, Robert Charlevoix, c'est « m'as-tu vu courir? » Mais c'est tellement plus que ça, et dans ce spectacle-là, d'ailleurs, il revisite les grands poètes avec qui il a travaillé, puis sur ses albums, il y a 3-4 chansons qui ont tourné à la radio, mais il y en a plein d'autres qu'on connaît moins, et c'est des textes fabuleux, et c'est là que tu te rends compte, d'un, il joue de la guitare, c'est un pianiste, il fait tout, mais c'est aussi tout un auteur, d'ailleurs,
tout à fait.
Si ça vous tente d'aller écouter la chanson qu'il nous a fait entendre à la toute fin, qui s'appelle « Et voilà », qui parle un peu du temps où il ne sera plus là, mais que sa femme va être encore là pour s'occuper des enfants.
Laurence, grande histoire d'amour de sa vie.
C'est venu me chercher, là, c'est de toute beauté ce texte-là. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait? Ce gars-là a commencé dans les années 60. Comment ça se fait qu'on connaît juste une facette? Moi, je connaissais surtout le côté givré de Robert Charlebois.
Mais tu sais, quand il a commencé, c'est parce que toi, t'es pas mal plus jeune que moi, mais je veux pas dire que j'étais là quand il a commencé, là, quand même. Je suis pas si vieille que ça. Mais quand il a commencé, il chantait La Boulée, puis tu sais, il était tout innocent, puis tout, gna, comme ça. Et donc, tu parlais des poètes, et entre autres, il a mis en musique, c'est un poème de Rimbaud, je m'en allais, tête nue. Heureux comme avec une femme. Bon, ben, il chante mieux que moi, évidemment. Donc, non, non, et puis des grands auteurs, évidemment, Marcel Sabourin et compagnie, Régent du Charme et tout. Donc, bon, ben, écoute, est-ce que tu trouves qu'au Québec, on rend assez justice à nos légendes, comme tu les appelles?
Assurément pas. C'est ce que j'ai dit à ma blonde en sortant. J'ai dit, mais comment ça se fait, tu sais, quand même, on a beaucoup d'émissions de variété au Québec. Comment ça se fait qu'on les voit pas plus sur les plateaux, qu'on les entend pas davantage, qu'on fait pas découvrir leur œuvre, qu'on reçoit pas Robert Charlebois dans des émissions d'envergure, qu'on y fasse pas un spécial. Qu'est-ce qu'on attend pour y faire un spécial télé à Robert Charlebois?
Oui, ça a déjà été fait, Jean-François.
Mais il y en a eu, mais je veux dire, on le voit pas. Tu ouvres pas ta télé, puis tu vois Robert Charlebois.
Il y a pas tellement longtemps, c'était, je pense, à Télé-Québec. Je pense même que c'est Productions Déferlantes qui avait produit ça. Il était en studio, puis justement, on voyait tout, là, les poètes, avec plein d'anecdotes sur ses chansons, puis tout ça. Mais il pourrait y en avoir plus.
On ouvre pas la télé, puis le voir à tout bout de champ.
Non, c'est ça.
Robert Charlebois. On ouvre pas la radio, puis l'entendre régulièrement, alors que c'est un monument, puis là, un jour, il va nous quitter, puis là, on va faire « Ah, mon Dieu », puis on va nommer une rue à son nom. On aurait donc dû. Ben, il est là, là, puis il est, écoute, d'une lucidité, parce que ses paroles de chansons, tu sais, autant il ne se souvenait pas de son pacing, là, il allait voir « Ah oui, on va faire celle-là.
Après,
on va faire elle. Ah, ça va être le fun. » Là, il regardait son équipe, tu sais, puis... Mais une fois que la chanson partait... Ouais. Il oublie rien, là. Il est d'une lucidité incroyable. Fait que, je me disais, mais on devrait, puis là, sûrement qu'on pourrait en trouver d'autres, là, de ce genre de légende-là au Québec, à qui on pourrait, je pense, donner une plus grande vitrine pour que des jeunes comme les miens apprennent qui est Robert Charlebois, qui
Absolument.
A été un grand musicien, un grand poète. Et un grand personnage de l'histoire du Québec.
Absolument. Donc, prenons soin de nos légendes. Alors, petite anecdote, j'ai écrit, donc, il y a plusieurs années de ça, la biographie de Jean-Pierre Ferland. Puis ça a bien fonctionné. Puis j'ai adoré faire ça. Puis à un moment donné, je me disais, j'aimerais ça faire d'autres biographies, tu sais, un coup parti.
Ben oui.
Une fois que t'as pogné le twist, là, ben, t'es capable. Alors, je me dis, qui j'aimerais faire? Puis là, j'adore tellement tout de Robert Charlebois. Donc, je contacte Robert, puis je lui dis, ben, j'aimerais ça faire ta bio. Puis Robert, il me dit, j'aimerais ça. Puis c'était bien beau le livre que tu as fait sur mon ami Jean-Pierre. Ben, j'avais interviewé Robert Charlebois pour mon livre sur Jean-Pierre Ferland. Et Robert me dit, il y a juste un problème. Il dit, je me souviens pas. Il y a plein d'affaires, je me souviens pas. Il dit, j'ai trop. Et je peux le dire publiquement. Parce
j'ai
que
trop du fun.
Non, mais c'est ça, il a trop fait de sorte de consommation de ci et de ça. Et donc, ça reste comme ça. Puis je me dis, bon, OK, c'est correct, il se souvient pas. Tu sais, il y a des grands pans, il se souvient pas. Et récemment, là, il y a peut-être un an ou deux, Robert a un compte Instagram. Et là, il met plein de photos de sa carrière, puis il commente, puis il te fait des longues tartines longues comme ça, où il te raconte plein d'anecdotes, ces chansons. Là, je disais, bon, ben, there goes ma biographie, là.
Mais c'est drôle. Donc,
finalement,
parce que...
il se souvenait de plein de trucs. Et c'est passionnant, allez voir sur son compte Instagram, là, il raconte plein d'anecdotes.
C'est l'impression que ça donnait, parce que là, il partait, mettons, pour une chanson, puis là, il nous parlait de l'auteur avec qui il avait fait ça. Et là, une fois parti...
Mais oui, c'est il n'est pas arrêtable.
C'est comme si tout y revenait au fur et à mesure. Puis là, à un moment donné, il réalisait qu'on était en show, puis que là, il fallait bien qu'il enchaîne avec la prochaine chanson. Ouais. Mais c'était vraiment ça. C'est comme si là, ce moment-là lui revenait en tête. Puis c'est un bon raconteur à part de ça. C'est vraiment
incroyable.
Un bon raconteur.
Donc,
super soirée. Si ça vous tente d'aller le voir,
allez
écoute,
voir ça.
Une petite salle, peut-être 225-250 personnes. Là. C'était très, très intimiste comme spectacle.
Et n'attendons pas, dès ce soir, faites jouer du Robert Charlebois, version années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, pour que tout le monde, évidemment, puisse dire à quel point c'est un gars extraordinaire. Et puis en plus, il a fait du cinéma avec Sergio Leone. Écoute, il a comme une vie. C'est comme un chat.
Ouais,
Robert Charlebois.
C'est un gars ordinaire, mais qui a rien d'ordinaire.
Oh, ouais, des paroles de mouf d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Salut, Jean-François.
Salut.
Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
Isabelle Huot, qui est notre conseillère, notre docteur en nutrition maison. Quand on a besoin de conseils, c'est à elle qu'on parle. Bonjour, Isabelle.
Allô, Sophie.
Isabelle, tu veux nous donner des bons conseils pour bien dormir? Écoute, c'est tellement un problème. La quantité de gens autour de moi qui ont des problèmes de sommeil, tout le monde doit être suspendu à tes lèvres en ce moment.
Oui, puis c'est drôle, c'était parmi les chroniques les plus lues dans le journal. Mais et oui. Je suis pas surprise parce qu'effectivement, autour de moi, j'ai tellement d'amis, de collègues qui ont des problèmes de sommeil. On parle d'à peu près 30 % de la population, mais il y a 10 à 15 % des gens qui ont vraiment de l'insomnie chronique. Donc, plusieurs nuits durant une semaine. Et 25 à 30 % des gens, ben c'est de l'insomnie occasionnelle. Je sais pas si toi, tu dors bien. Moi, j'ai pas bien dormi en fin de semaine.
Ah
mais...
oui, pourquoi? Ah, excuse-moi. Ah, ouais.
Ben non, c'est bon. Vrai. C'était les funérailles de mon papa, puis on sait qu'on a vécu des choses similaires. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent le sommeil. Mm. La ménopause, qui est un autre facteur qui nous affecte beaucoup.
Ben oui. Tu travailles en plein milieu de la nuit, ta robe de nuit ou ton t-shirt est mouillé. C'est sûr que tu te réveilles. T'as des enfants en bas âge, tu dors pas. T'as un conjoint qui ronfle, tu dors pas. T'as des soucis, tu dors pas. Bref.
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent, mais heureusement, on a des astuces pour les gens aujourd'hui.
Bon.
D'abord, la caféine. Tu sais, c'est sûr que la caféine, on a tous une sensibilité qui est distincte les uns des autres à la caféine. Il y en a qui peuvent prendre un espresso le soir, il n'y a pas de problème. Mais pour plusieurs, il faut arrêter un bon 4 à 6 heures avant d'aller au lit, voire il y en a qui doivent arrêter carrément à midi.
Café chocolat à partir de midi. Je peux plus.
Même le chocolat noir.
Surtout le chocolat noir.
Ah,
si tu m'invites à souper chez toi, sers-moi pas un gâteau au chocolat. C'est la chose que j'aime le plus au monde et tu vas me tenter. Et je pourrais pas parce que sinon je dors pas.
Oui. Ben voilà. T'as une hypersensibilité à la caféine dans le chocolat noir, t'as un chocolat blanc passerait, un chocolat au lait. Mais bref, toutes les sources de caféine, ça c'est sûr.
D'accord.
Il faut aussi s'éloigner des sources de lumière. On le sait, en soirée, baisser la luminosité. Détourner l'écran, il y en a qui voient l'heure constamment. Donc ça, c'est sûr que tu te réveilles la nuit, tu regardes l'heure, tu te mets à stresser. Il faut vraiment tourner l'écran pour pas regarder l'heure durant la nuit. Ça peut tout changer. Côté alimentaire maintenant, plein de choses. D'abord, de ne pas souper trop tard le soir, ça va élever la température corporelle. Et puis en élevant la température, on sait que la température baisse durant la soirée et ça nous amène à mieux dormir. Donc, on mange pas trop tard, pas trop tôt non plus, parce que si on a faim, on risque d'avoir de la difficulté à s'endormir. Fait qu'on arrête de manger un bon à peu près 2 heures là, avant d'aller au lit. Et ce qui est intéressant, Sophie, c'est d'avoir des sources de glucides qui vont augmenter la sérotonine en circulation. Exemple, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bien-être. Son précurseur, le tryptophane, qui est un acide aminé, qu'on trouve dans des aliments comme la dinde, les produits laitiers, comme l'avoine. Pour rentrer au cerveau, le tryptophane a besoin un petit peu d'insuline. Fait que le soir, d'avoir une petite portion de féculent, ça peut aider le précurseur de la sérotonine à rentrer au cerveau.
Les pâtes,
c'est bon.
Les pâtes, c'est ça. Oh, mais non, mais moi je mangerais des pâtes tous les soirs. À chaque fois que tu me donnes des nouvelles me disant qu'il y a des aliments que j'aime, que je peux manger, j'ai envie de te frencher.
Ouais, mais là tu m'aimeras pas parce que ça dépend de la portion de pâte, parce qu'on a trouvé dans des études qu'un petit peu genre une demi-tasse à une tasse, mais si on a une portion de produits céréaliens, indice glycémique élevé, des pâtes blanches, ça va perturber le sommeil. Fait qu'un peu, mais pas trop. Tu sais, genre une paella, une lasagne, quand on a trop de pâtes, ça fait monter trop la glycémie. On va s'endormir rapidement. Le sommeil n'est pas récupérateur. C'est ça.
Bon.
Attends, j'ai d'autres bonnes nouvelles pour toi. Un petit peu de glucides, pas trop.
D'accord.
Vitamine D, on dirait que c'est la vitamine miracle. À chaque fois que je te parle de la vitamine D ou d'un sujet, il y a toujours un lien positif avec la vitamine D.
C'est fou.
Donc, les gens qui ont des... Hey, c'est fou, elle sert à tout cette vitamine-là.
Mais oui.
Les gens qui ont des carences en vitamine D ont beaucoup plus de problèmes de sommeil. Hum. Donc, une raison plus de prendre son supplément de vitamine D
Non, mais aussi, tu dirais de s'exposer à la lumière du jour aussi. Hein?
Oui.
Parce que ça aide à synthétiser, si je ne m'abuse. Oui.
Voilà, et le matin surtout, pas tant pour la vitamine D, mais les chercheurs dans le domaine du sommeil disent le matin, là, exposez-vous le plus rapidement possible à la lumière naturelle. Ça peut vraiment
aider régulariser le cycle. Parce que par exemple, je sais que quand on voyage dans l'autre sens, là, le décalage horaire, on nous dit, tu sais, mettons, t'arrives en Europe, Ben, la meilleure façon, c'est pas de rentrer à ta chambre d'hôtel, c'est de t'exposer à la lumière du jour pour que ton système inconscient, j'imagine, là, reconnaisse le cycle des heures. C'est important. Bon.
Oui, ça, c'est super important, s'exposer à la lumière. Vitamine D, on a parlé, oméga 3 d'origine marine aussi, même chose. Ça a un effet calmant. Donc, les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, on a parlé souvent du poisson, à quel point on n'en mange pas suffisamment. Ça peut faire une différence sur le sommeil. Des fruits, il y en a des études qui sur la cerise qui contient naturellement de la mélatonine. Et on étudie différents cultivars de cerises. Ben, des cerises de type griotte contiennent naturellement de la mélatonine et c'est très aidant. Oui.
D'accord. Par contre, de la griotte, moi j'adore les griottes. J'en prends dans mes yogourts le matin, yogourt à la griotte. J'en mets dans de la confiture sur mes... Enfin bon, je vous raconterai pas ma vie aujourd'hui. Mais des griottes, par contre... Oui, mais par contre, des griottes, c'est pas comme si c'était, tu sais, bon, premièrement, c'est en saison, quoi, deux semaines dans l'année. Puis, de toute façon, au Québec, on n'en trouve pas. Y a-t-il des griottes au Québec?
Non. Non. Bon, fait que voilà. Tous les autres que les cerises, même de Californie, sont bonnes, un petit peu moins bonnes que les griottes, mais c'est bon quand même pour le sommeil parce que ça reste un des aliments qui contient le plus de mélatonine avec l'avoine, notamment les flocons d'avoine aussi. Les kiwis, ça, c'est vraiment trois études qui ont démontré que de prendre deux kiwis une heure avant d'aller au lit favorisait l'endormissement genre 17 minutes plus tôt.
OK. On cherche quelque chose qui marche pas.
Pourquoi.
Ouais, alors, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que tu m'as déjà dit, ou j'ai déjà lu, ou enfin, bon, bref, peu importe, que le kiwi avait beaucoup plus de vitamine C, par exemple, qu'une orange, puis que c'est un fruit absolument fabuleux. Mais, j'ai toujours aussi entendu que la vitamine C, la raison pour laquelle on le prenait le matin, c'est que ça nous réveille. Tu sais, tu prends un verre de jus d'orange, t'es réveillé. Ben là, c'est rendu que un fruit qui contient beaucoup de vitamine C nous aiderait à dormir. Ça me semble contradictoire, docteur Huot.
Ben, tu vois, c'est drôle, mais j'ai pas lu d'études à l'effet que la vitamine C entrave le sommeil. Je vais me mettre là-dessus, mais j'ai pas vu ça, moi. Peut-être qu'on associe, comme tu dis, petit matin, jus d'orange, on se réveille, on sait que la vitamine C est essentielle à la vie. Mais de là à dire que la vitamine C va perturber le sommeil, je te reviens la semaine prochaine, j'ai rien lu là-dessus. Non. Mais les kiwis, vitamine C, folate, les gens qui ont le syndrome la nuit, des jambes sans repos, des jambes qui bougent tout le temps, ça peut être une déficience en folate. On a des folates dans le kiwi. C'est excellent. On a également des plantes. Fait que dans les plantes, mélatonine, ça c'est sûr, mais tu sais, de prendre un supplément de mélatonine, 3 mg, une à deux heures avant d'aller au lit, ça peut donner un coup de pouce, mais il y a des gens qui font des migraines avec ça à surveiller.
Ah ouais?
Ouais, moi je fais des migraines à mélatonine, c'est un des effets secondaires, donc je peux pas en prendre du tout.
Puis une petite tisane camomille, c'est comme un cliché, mais ça fonctionne ou pas?
Oui, ça fonctionne. Les plantes les plus étudiées, valériane, passiflore, c'est des plantes où on a vraiment testé contre placebo. Ça fonctionne. Donc, ça prolonge le temps du sommeil. Ça, c'est certain. Le magnésium aussi, qui a des effets calmants. Donc, il y en a qui vont prendre 100 mg de magnésium au coucher. Ça peut être jusqu'à 300 mg de magnésium également comme effet calmant. Et puis, gérer son stress, c'est sûr que ça contribue énormément au sommeil.
Mais, il y a des choses qu'on ne peut pas... des fois, il y a des sources de stress qu'on ne peut pas éviter. Mes condoléances, je sais que c'était donc les funérailles de ton papa en fin de semaine.
Mais
donc, on est deux petites orphelines aujourd'hui. T'es gentille. On est deux petites orphelines aujourd'hui.
Plus de maman, plus de papa, donc on se comprend.
Bon, moi, il me reste mon papa. Merci beaucoup. Merci, Isabelle.
Merci. Merci, Sophie.
Elle se déplace du côté court au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante qui fait la une du Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. Le titre « Histoire d'horreur dans le Sud » et pour nous raconter cette histoire d'horreur, j'ai avec moi Cynthia Forgue, résidente de Sainte-Marie-de-Beauce. Madame Forgue, bonjour.
Bonjour.
Ça doit vous faire tout un choc ce matin de vous lever puis de voir votre visage tuméfié, vraiment un immense œil au beurre noir et surtout donc vous raconter cette histoire d'horreur. J'ai beaucoup de compassion pour vous. Madame Forgue, je vous laisse raconter dans vos mots ce qui vous est arrivé au Mexique le 8 décembre 2023.
Oui, merci. Je suis partie en voyage avec trois autres amies de filles. C'est la quatrième fois qu'on part ensemble en voyage.
D'accord.
Et la fameuse soirée, on a décidé d'aller à la discothèque de l'hôtel au Planet Hollywood. On reste sur le site. On pense être en confiance. Je m'en vais seule après la toilette et je reviens jamais. C'est 2 heures et quelques plus tard que mes copines ont fini par me retrouver à l'autre extrémité du site, confuse, tout blessée au visage. Puis tu sais, j'étais pas cohérente là. C'est vraiment le lendemain qu'on a compris qu'est-ce qu'il s'était passé là.
Et qu'est-ce qui s'était passé? Parce que bon, on va rentrer un petit peu dans les détails, oui. Mais votre culotte était à l'envers et vous aviez en fait...
Beaucoup de douleurs anales. Dans le fond, dans mon lit le matin, le monde, il me textait « bonne fête, bonne fête ». Puis là, j'étais pas bien, là. J'étais pas capable de lire des messages de bonne fête. Mon corps me faisait mal, j'avais mal partout. Du côté anal, ça faisait très mal. Là, je voyais, qu'est-ce qui se passe? Là, après la toilette, bobette à l'envers, bobette souillée, gros bleu sur une fesse, des bleus partout. Là, j'ai dit, c'est passé de quoi, là? C'est pas normal.
Alors, d'abord, encore une fois, toute ma compassion, toute mon empathie, parce que ça doit être vraiment absolument horrible de vivre ça et de pas en avoir été conscient, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, oui. Il vous est arrivé manifestement quelque chose, mais vous n'êtes même pas à même de savoir ce qui s'est passé. Alors, la première étape que vous faites, c'est de contacter évidemment les gens de l'hôtel, où vous avez d'abord contacté la police, là, corrigez-moi dans la chronologie.
L'hôtel en premier.
Oui. Quelle réaction ils ont?
Ben, qui disent qu'ils vont faire leur enquête, de retourner plus tard. Quand on est retourné un petit peu plus tard, sur 4 personnes, on était juste 2 à avoir droit de regarder la vidéo. La vidéo, on me voit marcher avec une personne basanée, il me tripote les seins, je marche croche, mais je le suis. Fait que l'hôtel dise « she's drunk », elle est saoule. Mais là c'est comme... Ça mérite-tu de me faire blesser autant que ça? C'est quoi là? Fait qu'eux autres me disent... On va poursuivre notre enquête. Fait que moi, le petit bout que j'ai vu, c'est, je marchais, là. C'était avant l'agression. Donc, après l'agression, les images doivent pas être bien, bien loin.
Ben oui.
L'hôtel demande de revenir. On retourne. Et ils nous regardent avec un beau grand sourire de refaire une nouvelle requête. Et nous, on partait.
Une requête pour poursuivre l'enquête pour avoir le droit de voir d'autres images. Donc, on comprend que de la part de l'hôtel, c'est pas fameux. On va nommer l'hôtel où vous êtes, êtes allé. Donc, le Planet Hollywood.
Le Planet Hollywood, Cancun au Mexique.
D'accord. Bon, alors après, donc vous, évidemment, vous décidez d'aller plus loin. Donc là, vous contactez la police. Comment ça se passe avec la police mexicaine?
Non, la police, dans le fond, moi, la nuit de l'agression, j'ai été consultée, je me souviens pas, là, mais mes copines m'ont apporté voir le médecin de l'hôtel.
D'accord.
Première affaire. Je me suis même trompée de date de naissance. T'sais, dire.
Ah, vous étiez confuse, pas rien qu'à peu près, là, oui.
Oui. Ensuite, le lendemain, le même médecin est revenu me voir en disant « Oh, il va falloir que tu ailles passer un proscanner parce que ça avait beaucoup enflé. Ah. » Puis, elle m'explique que la procédure, c'est qu'une fois sur place après l'hôpital, la police va être là pour la déposition, prendre les prises de sang, l'ADN et tout ça. J'ai passé le scanner et après 4 heures d'attente, le médecin vient en disant « Excusez, la police, ça viendra pas finalement. »
Mais c'est assez incroyable parce que vous, à ce stade-là, bien sûr, vous soupçonnez que vous avez été agressé sexuellement. Puis on le sait au Québec à quel point les heures ou enfin les minutes qui suivent une agression sexuelle sont importantes parce qu'on a au Québec un kit pour faire des tests, faire un prélèvement, est-ce qu'il y a du sperme, etc., pour pouvoir éventuellement identifier aussi la personne qui a fait cette agression sexuelle. Donc, si la police ne se pointe pas alors qu'elle devait être là, ben là, comment peut-il y avoir enquête si la police ne se présente même pas? Donc, l'étape suivante.
Madame L'étape Ford. Suivante, un coup rendu à l'hôtel, j'ai fait demander la police à l'hôtel.
Ouais.
Et l'hôtel refusait que la police vienne sur place.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ces cabochons-là au Planète Hollywood?
Non, c'est dégueulasse. Le seul bout que j'aurais pu faire de plus, c'est de me rendre avec un taxi à voir là, directement la police là-bas. Mais je me sentais pas à l'aise de partir en ville là-bas avec tout ce qui s'était passé.
Ben, puis de toute façon, j'imagine, excusez-moi, Madame Ford, que vous parlez pas espagnol?
Non, pas du tout.
En tout cas, pas assez bien pour pouvoir
dire
la police, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Là, on a beau être capable de dire « una cerveza, por favor », là, c'est pas la même chose dire... bon, on est d'accord là-dessus. Donc, l'étape suivante, là, à ce moment-là, vous rentrez au Québec?
Oui, mais là, ça a été difficile de revenir aussi, parce que là, j'arrive avec ma valise à l'aéroport. Là, il me demande qu'est-ce que j'ai eu au visage, est-ce que j'ai consulté. Je dis oui, je montre les papiers. Puis il me dit, ça fait pas, tu peux pas repartir. Là, j'ai dit, si moi je reste ici, je me désorganise. Ça marche pas. Finalement, j'ai dû voir un médecin là-bas, de l'aéroport, qui, lui, a donné son OK que je puisse partir.
Incroyable. J'imagine qu'ils se protégeaient, eux, par rapport à si vous aviez eu, mettons, une commotion cérébrale ou si vous aviez quelque chose, une condition médicale qui fait en sorte que vous pouviez pas prendre l'avion à cause de la pression. Enfin, j'imagine, hein, toutes sortes de...
Mais en même temps, les papiers, je pouvais pas les montrer à l'autre médecin. Fait que qu'est-ce qu'il y avait dedans? Fait qu'il y a comme beaucoup d'affaires bizarres. Puis moi, j'ai contacté la police du Québec en revenant.
Oui.
J'ai été passer la trousse à l'hôpital le lendemain de mon retour, le temps là, d'appeler, prendre rendez-vous.
D'accord.
Mais l'ADN, il n'y en avait plus, ça faisait trop longtemps. Là.
Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que vous aviez conservé vos culottes? Je suis vraiment désolée de vous poser la question. Là.
Non, c'est pas correct. Tout le long du voyage, le reste du voyage, parce que l'incident est arrivé en plein centre du voyage,
ouais.
J'ai gardé ça dans un petit sac avec ma robe. Puis, comme la police faisait pas rien là-bas, j'ai jamais pensé que par ici, on aurait pu refaire de quoi de plus. Puis, c'est comme fait. Moi, je laisse tout ça là. Je ramène pas de souvenirs du Mexique.
C'était pas un reproche. Hein. C'était vraiment juste une question de vous avez tout à fait. Alors, la raison pour laquelle vous décidez aujourd'hui, Cynthia Ford, de parler publiquement, c'est pour déplorer quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez comme issue par rapport à votre prise de position aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'ai vécu? On se cachera pas que c'est un gros drame.
J'imagine.
C'est pas facile à vivre. Et je souhaite ça à personne.
Oui.
Donc, si par le fait de dénoncer, on peut prévenir d'autres agressions, c'est la première raison.
D'accord.
Ensuite, que Sunwing se détache de tout ça, qu'il n'y a aucun support, aucun accommodement, rien. Puis, ils osent dire qu'ils poursuivent leur enquête, mais j'ai pas les courriels qui confirment que l'enquête est finie. Fait que Sunwing, je peux pas rien faire. L'hôtel, j'ai plus de recours légal. Donc, je me permets de dénoncer ça.
C'est assez incroyable, Madame Ford, parce que, bon, évidemment, je dois mettre tout ça au conditionnel, vu qu'il n'y a pas de conclusion dans ce sens-là de la part d'un corps de police. Mais, bon... Vous auriez été agressé, drogué, battu, agressé sexuellement de façon assez violente, donc victime d'un acte criminel. Et là, j'ai l'impression que vous êtes victime une deuxième puis une troisième fois à cause de la façon dont le système ou les compagnies d'aviation vous ont laissé tomber. Est-ce que c'est une bonne façon de le résumer?
Oui, très bien.
Ben écoutez, je vais vous souhaiter bon courage, Madame Ford. Je trouve que c'est très courageux de votre part de prendre la parole publiquement comme ça. Mais ça commence à devenir extrêmement inquiétant d'aller dans des... la République dominicaine, au Mexique, de plus en plus de cas d'intoxication, des gens drogués à leur insu. Ça vous inquiète? Est-ce que vous avez l'intention à un moment donné de retourner au Mexique ou vous faites une croix là-dessus puis c'est fini pour vous?
Ben pour le Mexique, là, je suis pas prête. J'avais un voyage de prévu en janvier avec mes trois enfants que j'ai cancellé, mais que là, on va partir en juin. on se comprend que ça fait vivre beaucoup d'émotions.
Oh, j'imagine.
Ça me fait travailler beaucoup. Ouais. Parce que j'aimais voyager, puis je veux pas que l'agression mine le reste de ma vie.
Absolument. Ben, c'est une bonne façon, puis il faut pas que vous laissiez cet événement-là vous définir non plus. Cynthia Forgue, résidente de Saint-Marie-de-Beauce. On salue tous les gens de Beauce, d'ailleurs. On vous appelle les Beauce-Marinois?
Le Beauceron.
Non, mais c'est parce qu'il y a un texte sur vous dans un journal. Attendez, donnez-moi deux secondes. Oui. Dites-moi pas que je me suis trompée.
Oui, prenez le temps.
Il y a un texte, une Marie-Vraine.
Marie-Vraine, ça, ben, c'est Sainte-Marie.
Voilà, OK, ouais. Parfait. C'est ça. Parce que, parce qu'il y a un texte sur vous dans mabeauce.com. Dites-moi pas que j'ai pas des bonnes sources, là. Alors, vous êtes une Marie-Vraine. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous parler. Vous me semblez être une femme très solide. Merci beaucoup, Cynthia Forgue, pour votre témoignage.
Merci. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Vous avez vu ce dossier dans Journal de Montréal, Journal de Québec sur des alternatives à la voiture. Moi, j'avais juste envie de déménager en Corée du Sud. Évidemment, on va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour Karine.
Bonjour Sophie.
Alors, écoute, un train qui va à 1000 km/h?
Oui, ils s'en viennent avec ça, ils travaillent là-dessus, ils pensent de pouvoir mettre ça en service d'ici 2050. Des taxis volants, des systèmes intégrés, là, tu prends l'autobus, tu sais exactement où tu t'en vas, il n'y a pas de délai, c'est vraiment rapide. Des lignes de tramway qu'on va ajouter, de métro qu'on fait en continu. Sérieusement, là, moi aussi, j'avais envie de déménager. Je trouvais que c'était... je trouve qu'ils font preuve d'ambition. Je trouve qu'ils ont pris la question du transport et de la mobilité dans la ville de Séoul, donc, de la bonne manière. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut investir en continu et que lorsqu'on investit en continu et qu'on réfléchit aussi en continu, ça fait en sorte que les réseaux deviennent super performants et que les gens, nécessairement, ont une meilleure qualité de vie parce que plus les gens ont d'alternatives pour se déplacer, moins il y a de problèmes de congestion routière, là, plus on donne une chance aux gens là, de pouvoir se déplacer rapidement, efficacement, dans le confort. Mais sauf que quand on compare évidemment à ce qui se passe au Québec, et je donnais l'exemple en chronique ce matin de Québec et Montréal, ça fait quasiment pleurer. Là, c'est juste un peu gênant. Parce que dans le cas de Québec, on a de la misère à partir la première phase d'un projet de tramway.
Mais non,
ça fait en sorte que la capitale est la seule ville au Canada de 500 000 habitants et plus qui n'a toujours pas de réseau structurant lourd. Alors, tu sais, on part quand même de la base, là. Et puis, on a toutes les difficultés du monde à la lancer. À Montréal, c'est la même chose. Tous les projets sont soit mis sur pause ou abandonnés les uns après les autres. On voit que le gouvernement a pas beaucoup de vision par rapport au transport. Mm-hmm. T'sais, à un moment donné, on a fait des choix dans les années 60. On a fait des choix dans les années 60, 70 d'y aller tout à l'auto, on a vraiment développé les systèmes autoroutiers et tout ça, c'est correct. L'auto fait évidemment partie des moyens de se déplacer. J'en ai une voiture, je suis pas anti-voiture, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que outre l'auto, si on ne pense qu'à développer avec la voiture, ça donne ce qu'on voit un peu partout dans les grandes villes où le transport collectif est pas bien développé, aménagé, c'est-à-dire des bouchons routiers, autoroutiers monstres. Et c'est pas ça qu'on souhaite. Là. C'est loin d'être
absolument
agréable.
Mais tu as prononcé le mot clé, hein, Karine, tu as dit la vision. Et quand on regarde, quand on se compare, on se console. Mais quand on regarde ailleurs dans d'autres pays du monde, on a l'impression qu'il y a des urbanistes, qu'il y a des planificateurs, qu'il y a des politiciens qui écoutent les urbanistes et les planificateurs, qui pensent des fois en dehors de la boîte. Tu sais, il y a des gens comme ça là, qui regardent une situation puis qu'ils voient pas la même chose que tout le monde. Ils pensent différemment. Ils disent, tiens, on va innover, on va... Et moi, les taxis volants en white dome, moi, je voyais ça dans les films de science-fiction. Mais j'ai l'impression, puis je veux pas non plus faire de trop d'autocritique, mais j'ai l'impression qu'ici, au Québec, il manque des fois de gens qui pensent en dehors de la boîte.
Ah ben moi j'ai envie d'en faire de l'autocritique parce que sur cette question-là on est vraiment en retard et ça, tu sais, ça a des impacts partout sur l'économie. Puis c'est vrai que de penser en dehors de la boîte c'est intéressant, mais pour faire ça il faut que les politiciens écoutent les experts. Puis on le voit dans différents projets. Quand on pense au troisième lien, ben ils ont pas écouté les experts, ils sont arrivés avec une idée, ça faisait bien, ça avait l'air pas pire, puis ils se sont dit hey on va gagner des votes avec ça. Là on est pris avec ça, alors que c'est pas justifié, il n'y a pas d'idée claire de ce que c'est. Donc, tu sais, au lieu d'avoir réfléchi à l'endroit, on est allé complètement à l'envers, on a pensé de manière électoraliste, et puis là, ben, les experts ont beau essayer de ramer, puis de ramener le dossier, puis voilà, c'est comme ça qu'on devrait y aller, c'est ça qui serait intelligent. On dirait qu'il est trop tard, on dirait qu'on est parti avec une bulle, puis on n'arrive pas à s'en sortir. Là, tu sais, je vois ces temps-ci les débats avec le chef du Parti québécois, donc qu'est-ce qu'il pense du troisième lien, puis là, est-ce qu'il devrait l'appuyer ou pas. Écoute, c'est pas drôle, on sait même pas ce que c'est.
Très bien, ce sera là-dessus notre conclusion. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci à vous, on se retrouve demain.